Chers lecteurs, bonsoir. Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on se retrouve autour d'un livre qui fait vraiment écho à l'actualité, à ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de Amick Wiken Mother, publié aux éditions Bellefond, qui a été écrit par Colm McCann. Alors Colm McCann, certains d'entre vous ont déjà dû entendre parler de lui, puisqu'il avait écrit un roman qui s'intitulait « Apeirogon » sur le conflit israélo-palestinien. Et cette fois-ci, il s'attaque au sujet du terrorisme et plus particulièrement aux victimes de celui-ci. Alors, c'est un livre qui est très prenant parce qu'il s'ouvre, au fait, sur la rencontre entre Diane Foley. Diane Foley est la mère de ce journaliste Jim Foley qui a été assassiné en 2013 par Daesh en Syrie. Et le livre s'ouvre sur la rencontre, justement, de cette mère et d'Alexander Côté, un des assassins de son fils. Et donc, c'est très présent, très fort, parce que l'homme nie avoir été présent le jour de l'exécution et il ne reconnaît pas vraiment d'avoir maltraité Jim que deux fois. Il ment, ça ne fait aucun doute, et c'est très difficile de le prouver parce que, en général, quand ces hommes sont tués en live, à la télévision ou filmé, bien les meurtriers sont cagoulés, ils ne sont pas formellement identifiés et c'est souvent l'argument majeur des avocats qui les défendent qui est mis en avant. Alors il y a une timide communication qui émerge entre les deux, le courage moral. Cette mère essaye de comprendre malgré son chagrin insurmontable et grâce à sa foi profonde, parce qu'elle est très très pieuse, elle essaye de comprendre qu'est-ce qui a motivé cet homme qui finalement est un Anglais, qui fait partie d'un groupe qui est surnommé les Beatles, plusieurs Anglais d'ailleurs, qui ne sont même pas d'origine à la base musulmane, mais qui se sont convertis à la foi musulmane et à Daesh, plus exactement. Et elle essaye de comprendre comment il en est arrivé là. David,
Oui, donc ce passage-là, c'est marrant dans mes notes. J'ai noté Diane Foley et Alexander Côté. Ces passages-là forment le début et la fin du livre. Hein, donc ce qu'il y a entre l'introduction et l'épilogue, on en parlera, mais c'est assez flagrant que c'est le début et la fin est comme le centre névralgique, qu'on ne peut pas rentrer dans tout ce qui s'est passé avant cette rencontre. Je trouve que dans ce dialogue, il y a une incroyable leçon d'humilité qui consiste à ce que Diane Foley va écouter sans juger pour le moment. Donc on pourrait croire, que ton introduction, on pourrait croire qu'on tombe dans les clichés, mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi n'avez-vous pas fait ça? Elle veut juste écouter pour essayer de comprendre. Voilà. Pour dire aussi, peut-être pour aller un peu plus loin sur Diane Foley, on a bien compris, c'est Colm McCann qui écrit pour Diane Foley, parce que Colm McCann est écrivain. Diane Foley a une vraie foi. Une vraie foi, y compris en ce qui concerne le pardon. Et on voit que ce soldat, on ne sait pas s'il ment, s'il ne ment pas, mais en tout cas, on voit qu'il n'a pas encore traité tous ses démons. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a on lit un dialogue entre deux êtres humains.
C'est tout à fait vrai. Alors, c'est vrai que le texte, donc, comme tu dis, s'ouvre sur cette rencontre avec le meurtrier de son fils. Et puis, il y a le passage au milieu où on découvre, en fait, d'abord qui était ce Jim Foley. On réalise que c'est un journaliste qui est empreint d'humanisme, qui d'abord avait été déjà une première fois kidnappé, je pense, en Libye, et ensuite qui a été re-kidnappé en Syrie. C'est un homme qui s'intéressait de faire connaître justement la situation des journalistes, qui voulait les mettre en lumière, ces journalistes qui se risquent sur le terrain, qui sont en danger constamment. Et donc aussi, le texte navigue entre les périodes de souvenirs d'avant et le drame lui-même et la période de deuil qui suit justement après l'assassinat de son fils. Et donc cette femme est véritablement meurtrie, elle est profondément pieuse et finalement on voit qu'elle n'est pas, comme David le dit, dirigée par la haine, par la rancœur, par la vengeance. Elle n'entre pas dans le jeu des représailles, elle arrive même à prendre un peu de recul pour essayer de mieux comprendre la situation dans son ensemble. C'est une femme qui est un modèle de résilience malgré toute la tristesse profonde. Elle ne perd jamais son calme.
C'est vrai que tu as dit quelque chose de très beau et de très juste, c'est que dans le cœur du texte navigue entre passé et présent. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses sur James Foley, journaliste. Et moi, j'ai ressenti une profonde admiration, vraiment pour la première fois de ma vie, pour le métier de journaliste. C'est que si le métier de journaliste est fait comme ça, ben waouh quoi. Il y a une telle... On sent bien que le fils tient de la mère, il y a vraiment une empathie d'âme. Ce Jim Foley se fonde parmi les choses les plus obscures... Il va partout, en fait.
Oui, il est intéressé, il veut faire connaître.
Il veut faire connaître, il n'est pas naïf et il veut avoir accès à la connaissance, à la différence. Et bon, alors ce qui est malheureux ou heureux pour l'histoire de l'humanité, ça je ne sais pas, tu l'as dit déjà, c'est qu'il est kidnappé une fois, il est sauvé une fois, il revient...
Il retourne, oui.
Il retourne au pays et il veut repartir. Et personne, ni sa mère, ne peut l'en empêcher. Et donc ça, ce sont des...
C'est des vrais journalistes.
Ben, ce sont des trajets où tu peux leur dire, mais enfin, tu as déjà été kidnappé. Et il y a une position sociale fondamentale qui dit, ben, je vais risquer ma vie pour faire connaître le monde. Il y a un rapport au monde énorme.
Je suis tout à fait d'accord. Alors moi aussi, ce qui m'a surpris, c'est que au fur et à mesure qu'elle avance dans son enquête, d'abord elle parle avec d'autres otages qui ont été eux libérés et elle découvre un petit peu, je ne vais pas dire les derniers moments de vie de son fils, mais elle découvre ses conditions, elle découvre ses conditions de torture aussi. Elle comprend qu'il a été beaucoup plus torturé que ce que lui est raconté et puis surtout, elle va comprendre comment le gouvernement d'Obama, à ce moment-là, fonctionne, comment les États-Unis mettent tout en œuvre pour les sauver, mais lorsqu'il s'agit finalement de véritablement les sauver, c'est un immobilisme qui prévaut, alors parce qu'aux États-Unis, on ne négocie pas avec les terroristes, contrairement à l'Espagne ou la France, où on déploie tous les moyens pour protéger les citoyens. Et plus encore, ce qui est incroyable, c'est que si les familles eux-mêmes mettent tout en place pour sauver, par exemple, leur fils, comme c'était le cas pour Diane Foley, eh bien, ils peuvent être poursuivis par le gouvernement américain. Donc, elle réalise à quel point, finalement, l'administration Obama ne se mouille pas vraiment.
On peut se permettre, je pense, d'être plus direct. L'Espagne, par exemple, a payé des rançons énormes, a donné donc de l'argent pour les prisonniers. Si les États-Unis n'ont pas négocié, c'est parce que les États-Unis ont également des prisonniers. Et on ne fait pas d'échange de prisonniers. Obama ne le fait pas. Et très curieusement, Donald Trump, après, l'a fait. Voilà.
Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est que elle pose une question qui est très intelligente dans ce livre, c'est qu'elle dit, c'est vrai, pourquoi payer une rançon pour libérer finalement d'autres terroristes qui commettront par la suite des actes terroristes contre des prisonniers, mais donc payer des rançons énormes, et elle se dit, ok d'accord, on refuse, l'Amérique refuse, les États-Unis refusent de payer des rançons, mais d'un autre côté, une fois que ces terroristes sont capturés, eh bien, il y a un argent énorme parce qu'ils ont droit à un procès équitable qui est dépensé. Et donc, elle se pose la question, pourquoi tant d'argent est dépensé une fois que les prisonniers ou les otages sont morts, alors qu'on pourrait davantage en dépenser pour justement sauver ces journalistes, par exemple.
C'est aussi un très très beau livre sur l'identité. Enfin, moi, ça m'a traversé, pardon, pendant toute la lecture. C'est qui détient une vérité honnête. Enfin, cette quête du journalisme, quand elle est comme ça, on a tous une vérité honnête. Et est-ce l'histoire ou le temps qui vont déterminer qui sont les bons, les méchants où est la complexité Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui traversent ce livre. En même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a des choses vraies qui traversent tout le temps le livre. Et sans faire de clichés, mais il y a la question de l'amour, il y a la question du sacrifice, la question de la réelle compassion, de la réelle pitié. Et je me répète peut-être, mais en rencontrant, et c'est pour ça qu'elle le met au début, et à la fin, en rencontrant l'un des meurtriers de son fils, Diane Follet nous offre une sortie à un dilemme qui dit simplement « je dois te connaître
ouais. ».
Elle
a besoin de le connaître pour mieux comprendre, voilà, même si elle ne comprend pas, voilà. Mais elle pour mieux...
Et j'admire profondément, je ne sais pas s'il faut dire empathie ou force, ouais. Ou les deux, mais je suis en totale admiration.
Mais oui, parce que aussi, ce livre est écrit, c'est une véritable écriture très, très proche, qui est très, très simple, pardon, qui est proche du style journalistique. Et donc, cette femme admirable est confrontée à une idéologie délétère qui est incarnée justement par un homme. Et c'est cette humanité de cet homme, de cette femme, pardon, qui est au cœur de ce récit. Parce que comme on le dit, elle aurait pu être furieuse, elle aurait pu être en colère. Non, cette femme est dans la résilience. Et justement, c'est avec ce chagrin qu'elle essaye de construire quelque chose. Elle va construire cette association au nom de son fils qui va se battre tout au long et qui existe encore toujours, qui va se battre pour justement faire connaître l'état des otages qui sont toujours emprisonnés. Et aussi la situation des journalistes.
Mais moi, pour conclure, par rapport à ce que tu dis, en racontant l'histoire de Diane Follet, McCain, en devenant un peu comme ça son ventriloque, ça a dû être incroyable. Mais je suis sûr que Diane Follet, le fait de raconter quelque chose, le fait de dire, ça a dû avoir un effet... cathartique. Alors c'est fort, fort aidé par la grande, grande, il faut le souligner, la grande qualité de l'écriture,
ouais.
Qui est toute simple. Hein. On est vraiment dans le ventre de Diane Follet. Mais ça a dû avoir un effet cathartique de pouvoir dire tout ça, de pouvoir dire, je suis une femme persuadée qu'on peut parvenir à moins haïr. Je suis une femme qui peut continuer à croire en l'être humain, en l'autre, sans pour autant l'aimer, sans pour autant le pardonner. Et voilà, je trouve, si je peux me permettre, que ces choses-là, enfin cette zone-là de discussion, alors je suis peut-être idéaliste, mais cela se traduit à travers la littérature et l'éducation scolaire, par exemple. Et pardon si je m'envole un peu, mais à l'heure où on lit de moins en moins, voilà, moi je trouve qu'il faut remettre, ce livre m'a fait penser à ça, je trouve qu'il faut remettre la lecture au cœur de nos écoles, au cœur de nos sociétés. Il y a pour moi un réel lien entre la lecture et l'empathie et le fait de raconter des histoires. Et voilà, moi je suis sûr que la littérature, ça peut nous aider à ne pas perdre notre humanité. Moi, Diane Follet, elle me raconte ça.
Tout à fait.
Si j'ai une chose à dire sur ce livre, c'est qu'il pousse à comprendre. Il faut comprendre.
C'est exactement ça. Et pour résumer, c'est une véritable leçon d'humanité, de courage, qui va justement nous redonner, nous, au lecteur, un soupçon d'espoir là où celui-ci avait totalement semblé disparu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, David.
Merci
à très bientôt.
À bientôt.